Bienvenue sur le podcast du Club du Large, le premier club entreprise de la voile océanique. Le Club du Large, c'est une communauté de passionnés de course qui se retrouvent lors de temps forts autour des principales épreuves du calendrier voile. Porté par OC Sport Pendwick et parrainé par le CIC, le Club du Large, c'est un réseau d'affaires, bien sûr, mais aussi une véritable plateforme de contenu avec des conférences, une newsletter, une page LinkedIn et ce podcast dans lequel nous recevons les femmes et les hommes qui font la course au large. Toutes les infos sur le club sont à retrouver sur clubdularge.com. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré au départ de la route du Rhum destination Guadeloupe dans le cadre du Talk by Hello Work qui s'est déroulé tous les soirs à 18h à Saint-Malo, au cœur de l'espace partenaire. On va parler économie, partenariat, sponsoring, business avec deux acteurs et de la route du Rhum et de l'écosystème de la voile de compétition ce soir. Le talk de 18h by Hello Work, ça va être une émission quotidienne, tous les soirs à 18h, comme son nom l'indique, jusqu'à samedi prochain. Il n'y aura pas d'émission dimanche, puisque normalement, cet espace-là, à part l'espace presse, sera vide. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que si vous ratez un tout petit bout de cette émission ce soir, vous pourrez le réécouter, puisqu'on va enregistrer chacune des sessions. Et on en fera un podcast qui sera disponible sur le site internet du Club du Large, que vous pouvez trouver à clubdularge.com. Donc chaque soir, un skipper, ce soir Tanguy Le Turquet, salut Tanguy.
Bonsoir à tous.
Et un acteur de l'écosystème voile, un dirigeant d'entreprise, pardon, et ce soir Jean-Marc Simon, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Le directeur général d'Apivia Massif Mutuel. Je précise que les skippers en général, on a choisi des profils plutôt entrepreneurs, des gens qui montent leur projet, qui vont chercher les sponsors, souvent un à un, qui sont souvent armateurs de leur bateau, et c'est tout ça qu'on va explorer ensemble. Ce soir, merci à vous de votre disponibilité. C'est un peu le tunnel pour les marins. Là, le village s'est rempli, la foule est présente partout. Il faut résister aux sollicitations. Donc Tanguy, merci beaucoup d'avoir accepté de passer un petit peu de temps avec nous. Jean-Marc, merci à vous aussi parce que ça a été une grosse journée. Je crois que vous allez nous expliquer. Vous avez reçu beaucoup de monde, beaucoup de salariés d'Apivia ces dernières heures. Une petite question de contexte d'abord, même si justement pour les besoins du podcast, on va essayer de ne pas trop contextualiser Route du Rhum. Cette première émission, tu as traversé plusieurs fois l'Atlantique, en mini, en Figaro, tu t'apprêtes à le faire en Imoca, et là tu as fait plusieurs départs de course, la mini, la G2R, et là tu es sur un village gigantesque, la foule, la pression. Comment tu vis depuis mardi, mercredi, peut-être arrivé mercredi avec les Imoca? Ouais, comment tu vis cette pression-là?
Figure-toi que j'étais jamais venu en fait sur le départ de la Route du Rhum, sur le village. Toute ma vie, j'ai regardé le départ de la Route du Rhum à la télé, et donc j'ai découvert le village impressionnant en arrivant donc par l'écluse là avec mon bateau. J'ai trouvé ça exceptionnel. D'ailleurs, j'ai réussi à m'échapper du bateau pour aller faire le tour tout simplement du village, voir les autres bateaux. Et c'est exceptionnel, c'est fantastique. Je félicite encore Hervé du merveilleux village qu'ils ont mis en place. Donc non, je suis super heureux d'être dans le bassin à côté de tous ces autres Imoca et même tous les autres bateaux. Il y a un an, je signais l'achat de ce bateau-là. Je rêvais d'être au départ de la Route du Rhum, mais je me sentais un peu au pied de la montagne pour arriver là. Et aujourd'hui, on y est.
Donc là, t'es au camp de base, là.
Ouais, exactement.
Et est-ce que tu sens la pression de la foule, des médias, des sollicitations? Tu sens que c'est une grosse machine quand même?
Ouais, c'est une grosse machine, mais très honnêtement, j'ai passé une année j'ai fait une traversée du désert à monter le projet. Et là, j'ai décidé que je venais pour savourer. Donc je profite de ce moment, d'avoir mon bateau dans le bassin, de rencontrer les médias, les partenaires, le public tout simplement. Et je profite de chaque instant. Je sais que c'est des moments rares et précieux.
Je remarque que c'est une première pour Apivia. Mais c'est peut-être pas une première pour vous, parce que vous avez une longue carrière à Massif, donc vous avez peut-être connu une ou deux routes du Rhum avec François Gabart.
Alors, j'en ai connu beaucoup, parce qu'en fait, j'ai un plaisir particulier à être là. Je suis malouin, en fait, d'origine. Ah, voilà. Je vis à Paris aujourd'hui, mais en fait, je suis né ici. J'ai vécu en Bretagne très longtemps. J'ai appris à faire de la voile sur la plage de Bonsecours. Donc voilà, il y a quelque chose de particulier d'être là.
Donc, j'ai plus de questions sur la route du Rhum à poser. Vous êtes,
vous êtes chez vous. Quoi. Je ne prétends pas être un spécialiste de la route du Rhum. En tout cas, j'ai un plaisir particulier. Et effectivement, dans l'histoire de notre groupe, j'ai pu assister notamment au départ de François Gabart en 2013-2014. Et donc depuis, en fait, on le vit aussi sous différentes marques, mais au sein du groupe. Ouais.
Et quelle sensation, justement, vous qui avez vu tous les villages, quelle sensation sur cette édition-là qui est avec 138 concurrents, avec un immense village?
J'ai le sentiment que c'est une édition hors norme. Voilà, le première impression, je suis arrivé jeudi, mais là aujourd'hui, pour la première fois, j'avais pas ce souvenir-là. J'ai mis un quart d'heure pour dépasser trois stands entre Charal, VNB et Happy Massif Mutuel. C'était impressionnant, quoi. Le monde, enfin, d'ailleurs, ça bouchonne, quoi. C'est très clairement. J'ai l'impression qu'il y a énormément de monde. Et évidemment, c'est lié au nombre de bateaux et c'est, je crois, une édition assez exceptionnelle.
Et à la météo pour l'instant.
Ça va changer.
Alors. Tanguy, on va parler du coup, je l'ai dit, hein, ce talk, il est anglais, économie et business. T'es skipper d'un IMOCA, mais t'es aussi entrepreneur. C'est vraiment littéralement ce qu'il faut bien rappeler. Est-ce que tu peux nous expliquer le montage de ton projet, sa genèse un petit peu, et puis son montage et les risques assez importants que tu as pris pour le montage, risques qui ne sont pas totalement finis.
Non, ouais, c'est exactement ça. Mais alors pour revenir un peu sur le parcours du projet. Moi, j'ai fait 5 solitaires du Figaro, très heureux de participer à ce circuit. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais l'année dernière, je sentais que j'arrivais un peu à bout de mon envie de Figaro. J'avais envie de plus. Je m'amuse à dire, mais c'est vrai que j'ai vécu le dernier Vendée Globe sur mon canapé à suivre ma femme, donc Clarisse, qui le faisait, et j'ai pas passé un très bon moment. Et tout ça m'a... Moi, le Vendée Globe, j'en rêve depuis que je suis gamin. Et tout ça m'a vraiment donné envie de passer le pas. Et donc, j'ai décidé, à la fin de la dernière solitaire du Figaro, en septembre 2021, de dire à mon sponsor, le groupe Keguinaire, que j'arrêtais et que je voulais aller vers ce Vendée Globe. Et là, j'ai rencontré une personne qui est Paola.
Juste un tout petit... Tu quittes un sponsor, hein ?
Je quitte un sponsor, c'est ouais. Pas... Ouais, voilà.
Ce qui est assez rare, quoi.
Ouais, je quitte une situation super confortable de faire de la course au large et d'être payé pour ça. Mais Keguinaire n'avait pas l'ambition d'aller sur le Vendée Globe. Il ne pouvait pas. Mais du coup, je prends la décision d'y aller. Je savais que ce Vendée Globe, si je le voulais, il fallait que j'aille le chercher, qu'on n'allait pas me le donner. Donc je rencontre Paola, qui est juste là. Et je savais que ce projet, je ne pouvais pas le faire tout seul. Et je lui dis, écoute, j'ai envie de faire le Vendée Globe. J'ai rien. J'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent. J'ai juste une très forte envie. On se laisse 2 mois pour essayer d'acheter un bateau et on voit ce que ça donne. On s'est laissé 2 mois pour acheter un bateau et manque de peau, on a réussi. Donc ça a été convaincre des investisseurs. Qui nous ont permis de lever 600 000 euros en un mois, je dirais. Ensuite, avec ça, on a été voir la banque qui nous ont prêté le reste de l'argent pour pouvoir acheter l'ancien apicile de Damien Seguin.
Je te coupe un instant, quand tu dis investisseurs, c'est des privés, des particuliers.
C'est des privés.
Des investisseurs qui vont prendre une part du bateau.
Exactement.
Et cet investissement, ils vont le rentabiliser le jour où tu vas revendre le bateau.
Exactement.
Et tu leur payes peut-être un petit loyer pendant ce temps-là, mais c'est une vraie mécanique d'investissement, c'est pas du don, quoi.
En fait, on leur a promis 7%.
C'est le taux de rentabilité, quoi.
De taux de rentabilité sur leur investissement. Et ça, en fait, la mécanique, c'est qu'il y a un loyer annuel payé par les sponsors, finalement, et la revente du bateau. Ça devrait générer 7% si on s'en sort bien. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à les convaincre. Ils ont embarqué, on en a 6, et derrière, la banque a fini de financer. Début janvier 2022, on se retrouve avec un IMOCA. Je me retrouve propriétaire d'un IMOCA.
Mais, alors, mais pour bien expliquer, t'as un bateau, mais t'as pas de budget de fonctionnement.
J'ai un bateau.
T'as acheté un bateau.
Je suis endetté à hauteur d'1 million d'euros et j'ai rien d'autre. Voilà. Et donc là, je parlais d'une traversée du désert. C'est ce qu'on vient de vivre de janvier, donc avec Paola qui est là, de janvier à, je dirais, à juillet, quand les premiers partenaires sont rentrés. On a traversé une véritable traversée du désert où il a fallu écrire une histoire, convaincre et puis après monter tout ça et faire qu'on se retrouve aujourd'hui dans le bassin avec un bateau prêt à faire la route du Rhum.
Alors t'as trouvé des sponsors, mais ton bateau ne porte pas le nom d'un sponsor.
Non.
Alors ça, c'est encore une autre mécanique qui vient se superposer à la.
Exactement. Donc là, on sort de l'investissement bateau, de l'achat bateau. Au début, on a cherché, on a essayé de trouver un gros partenaire pour faire un projet un peu qui pouvait ressembler à celui d'Apivia, Banque Populaire, Charal, ce genre de projet. Et en fait, il y avait vraiment une histoire de timing qui était très tendue parce qu'il faut absolument participer à la Route du Rhum pour faire le Vendée Globe. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Démarrant en janvier, c'était hyper compliqué de convaincre une entreprise de mettre 1 million sur la table pour participer à la Route du Rhum. Le timing était trop serré. À côté de ça, moi j'avais ce rêve d'enfant de faire le Vendée Globe, j'avais ce rêve d'adulte de le faire pour une cause qui dépassait un peu le côté sportif, de le faire pour quelque chose qui pour moi avait du sens. Avec Clarisse, on était tous les deux très investis dans une association qui s'appelait Lazare, qui a un vrai problème de notoriété parce qu'il faut comprendre que Lazare, plus ils vont ouvrir de maisons, plus ils vont pouvoir se passer des dons parce qu'en fait ils font payer des loyers à leurs colocs. Et donc, à terme, ça fonctionnera comme une entreprise.
Il faut juste que tu expliques en une phrase ce que c'est que Lazare.
Lazare, c'est beaucoup de gens savent. Mais... C'est des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des gens qui vivent dans la rue.
Voilà.
Et partant de cette problématique, j'aurais dit, écoutez, est-ce que ça vous chauffe d'embarquer dans ce projet IMOCA avec moi Moi, j'y voyais deux intérêts. Le premier, c'est que ça, bah, ça avait du sens pour moi et c'était hyper bénéfique. Je rentrais dans un projet qui dépassait vraiment le côté sportif et j'étais vraiment animé par ce côté-là. Et le deuxième truc, c'est que je me suis dit, on ne trouvera pas une grosse entreprise qui va nous accompagner. Du coup, il faut qu'on rassemble plein de petites entreprises qui vont mettre des petits tickets sous une bannière. Et cette bannière, rien de mieux qu'une association qui a des valeurs fortes. Et je suis vraiment parti du principe qu'aujourd'hui, les entreprises avaient besoin de s'associer à des valeurs. Donc ce qu'on fait, le montage, c'est 50% de l'affichage du bateau pour l'association Lazare, 50% pour les partenaires qui nous accompagnent. Et voilà, on a trouvé une dizaine de petits partenaires qui mettent entre 25 et 100 000 euros. Et aujourd'hui, on n'a pas tout le budget, mais on a le budget minimum pour être au départ de la Route du Rhum.
Et est-ce que tu as ton budget, on va le développer un peu après, tu as le budget pour l'instant que pour la Route du Rhum, il faut encore que tu trouves pour la suite de ton programme.
Pour l'instant, concrètement, on a levé 500 000 euros pour faire la Route du Rhum. Donc ça paye l'assurance du bateau, ça paye la banque, ça paye l'équipe technique, ça paye un peu de technique, voilà, ça paye le minimum. Maintenant, l'ambition, elle est claire, on cherche encore 2 millions pour s'aligner au départ du Vendée Globe. On a fait le plus dur, on a démarré, il y a des partenaires qui ont embarqué. Le plus dur, c'était d'en embarquer un. Une fois que tu en as embarqué un, les autres suivent. Maintenant, on va faire la Route du Rhum. À moi de faire une belle Route du Rhum, à mon équipe de bien communiquer, moi aussi. Et puis on espère que ça va suivre.
Alors, on va creuser un petit peu ce sujet-là après. Jean-Marc, je voudrais que vous nous racontiez comment le dossier de Charlie, si c'est comme ça que ça s'est passé, est arrivé sur votre bureau, sachant qu'on a presque les deux bouts du spectre en termes, ouais, de projet aujourd'hui. On a un projet multipartenaire derrière une cause et on a un projet monopartenaire. Un seul partenaire, donc, avec un pilote. Charlie n'est pas armateur du bateau, il n'est pas. Voilà. Donc, raconte-lui un petit peu comment
ce que nous raconte Tanguy est hyper intéressant, hein, c'est passionnant. Alors,
mais vous, c'est l'autre bout du spectre. Quoi.
Voilà, nous, on est dans une autre logique. Pour comprendre pourquoi on est rentré dans la course large avec Charlie, il faut. C'était en 2017, en fait, que ça a commencé. Et ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Appuyat Massif Mutuel, c'est l'assurance santé et prévoyance au sein d'un groupe qui est le groupe Massif. Donc on porte toute l'activité santé et prévoyance pour la Massif. Et en fait, on a créé en 2017, par le biais de fusions successives, une nouvelle marque qui était la marque Apivia. Et puis, à cette époque-là, Charlie, qui était en fait un des skippers Massif, hein, qui avait poursuivi
en
Figaro, qui était skipper Massif, skipper de talent, évidemment, cherchait en fait un partenaire. Et donc, c'était facile de se rencontrer au sein du groupe. Et en fait, on s'est dit que le projet de Charlie, qui était clairement un projet gagnant, il cherchait un sponsor capable de financer le projet pour gagner le Vendée Globe, hein, ces termes. Et nous, en fait, on cherchait un support en fait, pour installer la notoriété d'une nouvelle marque.
Qui était toute neuve, enfin, personne ne connaissait.
Elle a été créée en 2017, donc en fait personne ne la connaissait. Et aujourd'hui d'ailleurs, elle est installée dans le paysage de l'assurance. Alors derrière, on avait plusieurs objectifs, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, le point de départ, c'est ça, c'est cette rencontre, cette envie et ce projet que portait Charlie, ce besoin que nous on avait d'installer cette nouvelle marque, et donc évidemment sur une durée relativement longue. Et en fait, on a décidé en 2018 de partir sur ce projet, d'abord pour une période de 2019-2023 qui s'achève avec la Route du Rhum, et le bateau va avoir un autre destin avec Clarisse au retour de la Route du Rhum, et puis sur la période 2023-2026 avec Apivia 2 qui est en construction.
Alors comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que vous recevez le dossier, vous prenez un café avec Charlie, il a fait un petit PowerPoint, il vous explique tous les bénéfices, et comment ça se passe? Vous réunissez, vous faites un benchmark en disant on va une campagne de Vendée Globe, ça rapporte tant de notoriété, mais si on met l'équivalent dans une campagne de pub ou dans de l'affichage, ça rapporte tant. Comment ça se passe concrètement? Faites-nous rentrer dans le conseil d'administration, ça s'est décidé.
C'est presque ça. Ça s'est décidé le conseil d'administration du 6 mars 2018, je m'en souviens très bien. C'est un conseil d'administration extrêmement important. On a pris le temps de présenter le dossier. Charlie est venu défendre son dossier. Ensuite, il a quitté la salle du conseil d'administration. Il y a eu débat, il y a eu vote, et il y a eu un vote à l'unanimité. Donc, il avait convaincu en fait le conseil d'administration, tant sur des éléments de l'ordre humain, en fait, mais aussi le projet sportif et puis la cohérence économique en fait de ce projet. Et effectivement, c'est important que ce que vous dites, c'est que en contrepartie de cet investissement qui est important, hein, pour un projet course large, en fait on ne fait quasiment rien d'autre en termes de comment d'investissement.
Il n'y a pas de mix marketing, comment fait votre mix, il est quasi unique, quoi.
On a mis l'essentiel de notre budget sur ce projet, en fait on peut pas démultiplier, même si Apivia Massif Mutuel est une entreprise voilà, qui réalise un peu plus d'un milliard de chiffres d'affaires et qui est quand même une entreprise solide. En fait, on a fait le choix, en fait, tout simplement, de mettre l'essentiel de notre budget de communication sur ce projet.
Et avant de prendre votre décision, vous faites des études, ça se travaille un peu, justement, le service marketing travaille un petit peu
Oui, alors les services, on a fait différentes études, mais très honnêtement, Charlie était déjà installé dans notre groupe, il était reconnu, c'était Skipper Massif, c'était un projet qu'on a pensé aussi avec Massif, donc les choses se sont faites quand même plus naturellement que si c'était, quelqu'un d'inconnu qui était venu nous voir avec un PowerPoint.
Et puis, il y a tout l'historique avec François Gabart, de la maison mère qui, j'imagine, a un peu pesé quand même.
À ce moment-là, en fait, en 2017-2018, François Gabart est sur l'ultime avec Massif. Et effectivement, ça a joué, puisque finalement, la recette qui a très bien fonctionné avec François Gabart sur la classe IMOCA, en fait, on l'a reproduit d'une certaine manière avec Charlie. Et d'ailleurs, le bateau est maintenu par Merconcept, la société de François Gabart. Voilà. Donc, en fait, tous ces liens tissés depuis 10-12 ans au sein du groupe, en fait, nous ont servi aussi et sont un élément extrêmement important du succès de ce projet. Parce qu'on peut dire que c'est un succès.
Oui, oui, bien sûr. Alors, on parle même pas des résultats sportifs, mais Charlie a gagné toutes les courses cette année. Il est le favori absolu de la Route du Rhum. Il a fait un Vendée Globe qui, s'il a terminé premier sur la ligne, il finit deuxième. Donc, il a gagné la Jacques Vabre. Voilà, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais effectivement, les bénéfices, en tout cas en termes de notoriété. On va revenir là-dessus juste après. Tanguy, je voudrais que toi, maintenant, là, les questions qu'on te pose en ce moment sont plutôt sportives, mais moi, j'ai des vraies questions de business, si tu acceptes de t'y replonger temporairement. Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui quand tu vas chercher des partenaires? Donc, tu dois avoir aussi un petit PowerPoint, un PDF que tu présentes, que tu adaptes certainement. Qu'est-ce que tu vas proposer concrètement aux partenaires que tu démarches?
Alors, on propose beaucoup de choses. Je vais y revenir, je vais détailler. Mais ce que je trouve intéressant, et en fait, je le retrouve dans le projet d'Apivia, et je pensais pas, c'est que quelque part, la prise de décision, on a beau faire de PowerPoint, on a beau vendre un produit, il y a toujours l'affectif qui arrive derrière. Et pour Charlie, ce que je comprends, c'est qu'il était quand même implanté, il était déjà dans le décor. Les gens en interne l'appréciaient déjà. Et moi, c'est quelque part, au final, c'est ce que je vends aussi. C'est pas quelqu'un d'autre que moi qui va vendre mon projet. C'est toujours moi qui y vais. Parce que pour signer, il faut qu'il y ait de l'affect. Il faut que les gens sentent le bonhomme qui est en face. Parce que quelque part, ces sponsors, ben, c'est un peu qui finance la prise de risque que le skipper va aller prendre. Et donc, il faut que ça passe humainement. Je pense que ça, c'est très important. Après, moi, ce que je vends concrètement, c'est un, de l'affichage aux côtés des valeurs de Lazare. Pour moi, c'est très important. C'était très important d'avoir Lazare, l'association, ses valeurs et les partenaires à côté. Je voulais que les gens qui regardent mon bateau puissent se dire « Ah, un tel, je veux dire Natixis par exemple, qui sont partenaires, s'est associé aux valeurs de Lazare. » Ça, c'est vraiment c'est quelque chose que je vends et qui est très important pour moi. Ensuite, plus concrètement, on vend quand même vachement plus d'internes que d'externes. Comme on n'a pas un bateau qui s'appelle, bah, par exemple, Apivia, il y a plusieurs noms qui sont dilués. On ne peut pas commencer à aller sur le terrain de la notoriété et de l'externe, ça ne fonctionnerait pas. Donc on est très ciblé sur l'interne.
Mais tu as besoin un petit peu de l'externe quand même pour valoriser l'interne.
Ouais. En fait, les partenaires qui ont embarqué disent toujours « Non, mais nous, l'externe, ça ne nous intéresse pas. » Mais en fait, ils sont tous quand même très heureux d'avoir leur logo sur le bateau. On s'aperçoit quand même...
Et des papiers dans la presse.
Ouais, et puis il y a quand même une fierté d'avoir sa marque sur un bateau qui va aller faire une transat ou un tour du monde. Ensuite, très concrètement, moi, le projet tourne vraiment autour de Lazare. Et ce qu'on propose, c'est des moments de partage, des moments de rencontre, que ce soit des navigations, des rencontres en interne, mais toujours avec Lazare. Quand je me déplace pour aller parler à une entreprise, j'y vais avec un colloque Lazare. Quand je fais naviguer une entreprise sur mon bateau, en fonction du montant qu'elle va mettre, elle aura plus ou moins de place sur le bateau, il y a des colloques Lazare qui sont là. Les entreprises qui ont embarqué dans l'aventure, elles ont aussi un intérêt, RSE, je dirais, de devenir... dans cette aventure pour être avec Lazare. Les collaborateurs de Natixis, je reparle avec eux, qui sont venus naviguer. Ils ont navigué avec des colocs, ils ont navigué avec des gens qui ont vécu à la rue. Ils ont pu se rencontrer et pour eux, bah, ça avait voilà, un intérêt fort parce que c'est un partage de valeurs. Voilà.
Et alors, ça c'est les différents leviers qui peuvent intéresser les sponsors. Toi, tu vends des... Parce qu'en fait, c'est de la vente pure. Hein. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Hein. Donc, tu fais des packages, il y a un ticket d'entrée, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 500 000, 1 million.
Exactement.
Tu as gradué ça, tu as une offre très précise.
En fait, ce qui était très important pour moi, c'était. Il y a un truc dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est que quand. Enfin, en tout cas, les entreprises, quand on va démarcher pour un budget, par exemple, je cherche 1 million pour faire le Vendée Globe, dans ce budget-là, ce qui n'est pas compris, c'est l'activation pour le partenaire. Donc en gros, une entreprise, je ne sais pas, peut-être que Apivia pourra en parler mieux que moi, mais j'ai l'impression que c'est au moins le même montant qu'il faut remettre pour activer, inviter les collaborateurs, faire de la pub, tout ce genre de choses. Donc il faut activer un partenariat. Nous, ce qu'on voulait, c'était proposer aux entreprises d'embarquer et elles n'avaient rien à dépenser et l'activation était faite. Donc il y a des packages, voilà, on a le premier package qui est à 25 000, on ne voulait pas faire plus bas parce qu'après ça devenait trop compliqué, mais on fait des packages, et dans ce package-là, elles ont tout compris. Elles ont de la com, elles ont des places sur une vedette départ, elles ont de la navigation, elles ont tout ça, voilà. Bon, le but du jeu, c'est de vendre le package le plus gros pour avoir besoin d'en chercher le moins possible. Pour l'instant, on a vendu que les plus petits.
Et t'as combien de packages ?
On a 25, 50, 100, 200, 400. Voilà, et le 400 étant le partenaire majeur qui pourra bénéficier
du naming du bateau.
Du co-naming avec Lazare, ouais.
D'accord. Et comment tu cherches ?
On fait des buzz. Alors, il n'y a pas de bonne technique. Honnêtement, c'est des rencontres. Ce dont je suis très très fier, c'est que tous les partenaires qui ont embarqué dans la voiture, c'est des appels entrants. C'est pas moi qui ai été les démarcher, c'est eux qui sont venus vers nous. Comment ? Parce que. Alors, forcément.
Je te coupe, ça s'interprète de deux façons différentes.
C'est-à-dire
soit tu fais aucun démarchage.
Ouais, alors soit... j'y viens.
En fait, je prends que les appels entrants, soit tu fais aucun démarchage.
Non,
soit...
en fait, on a fait du démarchage. On a fait des PowerPoint. On peut demander à Paola, elle a fait un nombre de plaquettes interminable. On a envoyé des plaquettes, on a fait du mailing. Ça ne marche pas. Ce qui a marché, c'est qu'on a fait une vidéo qui nous a pris 2 heures, un peu plus, mais qui nous a pris une demi-journée sur un ponton à Lorient avec des colocs Lazare qui a fait un buzz énorme sur LinkedIn. 1 million de vues sur LinkedIn, ce qui est... à mon sens exceptionnel.
Considérable.
Et suite à ça, on a augmenté notre pipe de prospects. On a passé d'un tableau Excel de 3 prospects à peut-être 50. Et puis voilà, en fait, c'est un entonnoir. À la fin, il y en a une dizaine qui sont sortis de ça. Mais c'est ce buzz vidéo qui nous a fait connaître, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des partenaires.
Jean-Marc, vous, chez Apivia, qu'est-ce que vous faites de l'investissement que vous faites dans le bateau ? On a compris que la stratégie, c'était faire connaître la marque. Pour qu'elle soit plus connue et que les gens achètent des produits Apivia. Mais qu'est-ce que vous en faites concrètement ? À quoi cet outil vous sert ?
Alors en fait, on avait 3 objectifs. J'ai été sur l'objectif essentiel tout à l'heure qui était le développement de la notoriété de la marque ou l'installation de la notoriété de la marque. On avait un deuxième objectif business, c'était d'accompagner en fait le développement du nombre de distributeurs qui distribuent, qui proposent en fait nos produits, ce qu'on appelle les intermédiaires d'assurance, courtiers et agents généraux. Et puis le troisième objectif, c'était un objectif plus interne, de cohésion interne, à une époque où en fait on était en phase de consolidation et de fusion. Vous savez, dans les entreprises, quand on fait des fusions sur le plan humain, c'est compliqué. Et en fait, on avait besoin de se rassembler autour de Charlie, autour d'un tel projet. Et donc, c'était une donnée très, très importante. Voilà, on avait ces 3 objectifs. Et ça répond en partie à votre question. Ce qu'on en fait, c'est qu'on a une identification importante en fait, au sein de l'entreprise par rapport à ce projet. D'autant plus que c'est vraiment un projet gagnant et qu'on a une énorme satisfaction par rapport aux résultats sportifs de Charlie. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, par exemple, aujourd'hui, on avait 170 collaborateurs qui venaient à Saint-Malo, de Grenoble, de Lille, de Tours, de Niort. C'est un peu plus de 10% de l'effectif des salariés qui sont mobilisés aujourd'hui. C'est évidemment du volontariat qui sont là à chaque fois qu'on fait intervenir Charlie sur des réunions de managers, des rencontres de collaborateurs. C'est un succès fou. Et donc ça, cet élément-là, il était très, très important. Mais évidemment, non pas essentiel, c'est difficile de hiérarchiser, mais important sur le plan financier, c'était le retour en termes d'équivalent publicitaire.
Alors, on va justement, comment vous mesurez l'efficacité de cette stratégie ? C'est un vieux débat de la voile de compétition depuis très très longtemps, mais je suis sûr que vous avez des gens au-dessus de vous qui vous disent, bon, on a mis...
bien sûr.
Je vais vous demander tout à l'heure combien.
on a mis les sous.
X millions d'euros. Est-ce que ça marche ?
Alors ça marche. Alors c'est une question qui est très très compliquée, mais je pense que l'élément de mesure par des organismes indépendants, c'est l'équivalent de retombées publicitaires. C'est-à-dire, si on avait dû acheter des espaces publicitaires, il aurait fallu mettre combien pour avoir cet équivalent-là. Et ce qu'on peut dire sur un projet comme ça, moi j'ai les chiffres des 3 premières années sur les 4, on n'a pas 2022, mais les chiffres sont au-delà de nos attentes. On a des équivalents de retombées publicitaires publicitaires aux alentours de 40 millions d'euros hein, sur 3 ans. C'est très important. Alors évidemment, le Vendée Globe il pèse très très lourd là-dedans, entre 25 et 30 millions d'euros. On attend énormément de la Route du Rhum, qui est le deuxième événement sur le cycle de 4 ans. Voilà, globalement, on aura aux alentours, enfin, certainement plus de 50 millions d'équivalents de retombées publicitaires. C'est très très important et c'est plus de 4 fois en fait le montant de l'investissement.
Ah, donc voilà. Du coup, là, on peut faire le calcul du chiffre.
Voilà, faites le calcul.
Et tout à l'heure, Tanguy disait que dans l'activation, souvent, on disait que pour 1 euro investi pour acheter les droits, en gros, financer l'équipe, il fallait à nouveau investir 1 euro d'activation. C'est-à-dire que les 160 salariés qui sont venus avec leur famille, il faut leur payer le billet de train, la chambre d'hôtel. Vous êtes sur cette proportion-là aussi ?
Alors, un petit peu moins, honnêtement. Mais par contre, lorsqu'on parle de montant d'investissement global du projet, on l'intègre. Ça ne vient pas forcément en plus. Donc, quand je vous dis, en gros, on a 4 fois plus que le montant d'investissement, dans ce montant d'investissement, il y a tous les frais de relations publiques, d'activation de communication interne,
d'accord,
etc.
Donc
le chiffre, on est vraiment en coût complet pour le coup.
Donc, le chiffre, en gros, c'est 12,5 millions d'euros par an sur 4 ans. Y compris.
Non, c'est entre 12 et 15 millions d'euros sur 4 ans.
Sur 4 ans. Donc, compris activation. Non, sinon, c'est un budget d'ultime, sinon.
Oui, tout à fait.
En fait, pour nuancer, moi, ce que je disais, c'est qu'un skipper, quand il va démarcher une entreprise, va vendre un budget. Et dans ce budget-là, l'activation est rarement comprise.
Exactement. Ça, c'est important de comprendre. C'est que un sponsor vient d'abord acheter les droits, le droit d'utiliser, de mettre la marque sur le bateau et de financer l'équipe. Et ensuite, il faut réinvestir. Donc voilà. Merci pour la transparence et pour les chiffres. C'est vraiment intéressant. La mesure, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait un outil commun. C'est des sociétés privées qui font ça en fait. Il n'y a pas une mesure, il n'y a pas un chiffre public.
Oui, ce sont des sociétés qui sont spécialisées en fait, qui mesurent, notamment dans le cadre des sponsoring, le nombre de passages télévisés où on a eu l'exposition de la marque, le nombre d'articles web, le nombre de passages radio, le nombre de moments où la marque a été citée. Donc, je ne sais pas très bien comment ils font, mais en tout cas, ils le mesurent. C'est en calculant le nombre de bruits médiatiques. Ça, vous devez le connaître mieux que moi d'ailleurs.
Les unités, les UBM, c'est ça.
Les UBM.
Ça, c'est,
ouais,
donc c'est Kantar. Hein,
comment ?
Donc c'est Kantar, vous passez par Kantar.
Probablement, ouais. Ça, je vous
bon, enfin bref, voilà. En tout cas, cette mesure-là, elle est au cœur de beaucoup de débats. Et effectivement, c'est le principal indicateur que beaucoup. En tout cas,
cette mesure, elle a le mérite d'exister. Exactement. Après, faut prendre les choses avec un peu de recul. Je ne suis pas sûr qu'on puisse véritablement dire que c'est le même investissement que si on avait acheté des espaces publicitaires où on exposait non seulement la marque, mais nos produits. Donc, ça n'a pas forcément le même effet. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la notoriété de la marque Apivia, elle est montée en puissance de façon très, très forte.
Et par ailleurs, vous mesurez la notoriété de cette marque-là séparément des retombées médias. Vous devez la mesurer.
On la mesure, en partant de zéro, la mesure aussi sur des éléments business, hein, de nombre de souscriptions de produits sur Internet. On a vu par exemple au moment du Vendée Globe une fréquentation du site Internet et de souscriptions de produits en ligne très très importante. On le voit bien.
Ça, vous savez le corrélé quoi ?
On le corrèle, ouais, tout à fait.
Donc là, on est vraiment dans le retour sur investissement au sens strict du terme. On investit dans un bateau et ça fait tomber des polices.
Et puis je disais un point qui était important, on a des distributeurs, des intermédiaires d'assurance, on en avait 2500 au moment du départ de ce projet, on est à 4000 aujourd'hui. On ne peut pas dire que tout est lié au projet, mais enfin, en tout cas, ça a contribué fortement.
Tanguy, ça doit te faire rêver ces chiffres-là.
Ouais, non, mais c'est super intéressant. Vraiment, ouais. C'est super intéressant parce que nous, c'est un peu ces trucs-là qu'on vend, enfin qu'on regarde, qu'on essaye de comprendre et là, on a les explications, donc c'est passionnant.
Tu travailles, tu cours pour une cause. Est-ce que aujourd'hui et beaucoup beaucoup de bateaux portent des causes. Charlie porte des causes qui sont marquées en petit sur son bateau, mais on sait qu'elle lui tient à cœur. Et on sait que beaucoup de bateaux et beaucoup de projets portent des causes. Aujourd'hui, quand on est comme toi, qu'on part de zéro avec un petit projet, qu'on monte à la force des bras, c'est obligatoire d'avoir une cause. Du point de vue commercial, toi, pas du point de vue éthique ou moral, ni du point de vue personnel, mais du point de vue commercial, on a l'impression que c'est presque obligatoire aujourd'hui.
Je crois pas que ça soit obligatoire. Je pense que ce qui est important pour démarrer, c'est à un moment donné d'avoir du réseau, chose que je n'avais absolument pas. Et j'avais l'impression de m'agiter dans tous les sens, de faire des plaquettes, de faire des mails, d'appeler les gens. J'avais vraiment l'impression de m'agiter énormément et ça prenait pas. Donc j'ai eu cette idée-là parce que en fait, moi, ce qui m'a fait rêver, c'était vraiment le projet de Tanguy de la Motte que porte maintenant Sam Davis, Initiative Cœurs. Je me suis dit, waouh, mais ils font du bateau pour une cause. Ils réalisent leur rêve de faire du bateau et en plus, ils le font pour quelque chose. Donc je trouvais ça vraiment génial. Et voilà, j'ai eu envie de faire pareil en me disant que peut-être ça m'aiderait parce que voilà, j'ai pas de réseau, mais au moins j'avais quelque chose à raconter. Mais je sais pas si c'est un passage obligatoire. J'ai des copains qui font aujourd'hui de la course au large, qui avaient déjà un réseau, et ils ont juste appelé un copain, et ils se sont retrouvés avec un partenaire, et il n'y a pas de cause derrière, mais ça a quand même fonctionné. Ouais.
Jean-Marc, quand on est à la tête, quand on finance un projet comme celui de Charlie, donc qui est plutôt un projet de pilote avec une écurie structurée, quel regard on jette un projet comme celui de
J'aime beaucoup le projet que présente Tanguy. Effectivement, nos projets sont différents, mais j'imagine qu'une mutuelle comme la nôtre serait aussi très intéressée en fait pour porter un tel projet. Alors non, Tanguy, il n'y a pas d'ambiguïté.
Je prends un pourcentage.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Et on est très très heureux d'avoir ce projet avec Charlie Dalin. Donc évidemment, je suis pas en train de dire autre chose. Mais c'est un projet très intéressant. Et c'est vrai que moi, je le dis honnêtement, à titre personnel notamment, je regarde le projet de Samantha avec beaucoup d'intérêt. Voilà.
C'est un peu le modèle, hein, dans les projets à cause. C'est un peu le modèle.
Ce qui est très important à dire aussi, c'est que sans des acteurs comme Apivia, comme Banque Populaire, comme Charal, on n'attirerait pas aujourd'hui mes partenaires financiers qui sont des petites marques quelque part. Et c'est hyper important d'avoir des piliers comme Apivia. Et je me souviens encore quand Massif s'était retiré avec François, moi je l'ai vécu comme un choc. Je me suis dit, mais zut, est-ce que je vais pouvoir continuer de faire ce métier-là? Et donc, moi je porte un projet qui est très différent de celui d'Apivia. Mais déjà, je suis hyper fier d'être sur la ligne en même temps que Charlie, qui est un marin émérite avec qui j'ai croisé le fer plusieurs fois en Figaro. Et voilà, moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir ce genre d'acteur dans la classe.
Eh ben, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 18h32, donc on a respecté le timing du talk de 18h et Lower Work parfaitement. Un grand merci à tous les deux. Merci d'être venus, d'avoir pris le temps. Puis on peut vous applaudir. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast du Club du Large. N'hésitez pas à le partager et retrouvez-le sur clubdularge.com.